tous les jeudis, j'ai la ref sur Radio G.
Nous accueillons donc notre partenaire de cette émission. On vous rappelle, quelques fois dans l'année, donc une fois tous les deux mois généralement, on vous parle à vous, nouveau ou nouvelle entrepreneur ou entrepreneuse, pour vous partager quelques domaines, quelques tips, quelques astuces du milieu de l'entrepreneuriat si vous démarrez, si vous connaissez, ou juste par curiosité ou par connaissance. Grâce à notre partenaire Icar Club, qui est le premier club d'entrepreneurs ici à Angers, on a la possibilité de vous partager quelques astuces. Et après avoir reçu Kylian Rouvray de KR Mobility, aujourd'hui on reçoit Franck Gomez de Feed Me Home. Alors déjà bonjour Franck.
Bonjour Fanny.
Bienvenue sur Radio G. Toi, t'es un habitué, peut-être pas, mais t'as déjà fait de la radio chez nous puisque t'es passé dans l'émission Les Voix de l'Écho, qui est sur cette même antenne, pour parler de ton entreprise Feed Me Home. Déjà, ça a été quand t'étais aux Voix de l'Écho. En plus, c'était en direct.
Ah bah oui, tout à fait. Ça s'est très bien passé. C'était super. Mais on va en parler. Mais depuis le temps, mes projets entrepreneuriaux ont évolué. Donc il y a toujours Feed Me Home, mais on parlera.
D'éléments nouveaux, en plus. Ouais. Feed Me Home, pour resituer, si je ne me trompe pas, au pire tu me dis, hein, si je me trompe, c'est un dispositif qui permet, notamment pour les jeunes, voire pour les étudiants plus précisément, de leur permettre d'avoir des repas sains et équilibrés à un coût correct. De mémoire, c'était livré chez eux directement pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs cours et quand même avoir la possibilité de manger sainement et correctement pendant leur année étudiante.
Alors tout à fait, mais ça c'était à l'époque.
Ça c'était à l'époque.
Depuis le temps, on a pris un tournant et maintenant on met en relation des traiteurs indépendants, donc toujours comme avant, mais ils font plus du particulier, ils font que des événements.
Ok.
Donc événements pour des mariages, donc des particuliers ou des pros, pour le professionnel ou des associations.
Ou des associations. Et donc là, l'idée, toi, t'es le fondateur de cette entreprise. Le concept déjà, originellement, quand on a parlé de la première version que j'ai dit tout à l'heure, et toi, t'as parlé de la mise à jour. Sur cette mise à jour de mise en relation, toi déjà, en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, comment, on va parler de prototypage aujourd'hui si vous vous posez la question, mais juste avant, on échange quand même un peu. À quel moment tu dis, ok, moi, mon entreprise, elle tourne comme ça pour l'instant, mais... je pense la faire évoluer et peut-être changer un peu sa ligne de direction pour soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue cible, etc. À quel moment toi tu te dis ça peut être intéressant de changer ?
Il faut pas oublier que le client, les chiffres sont la règle, donc il faut les suivre. Et qui font les chiffres sont les clients. Et en fait, la version particulière n'était pas assez rentable au sens où Angers et peut-être même certains me disent la France n'est pas un pays habitué à se faire livrer par un traiteur tous les jours leur nourriture. Et donc, je me suis dit, mais là, je commence à avoir une base de 10 traiteurs sur Angers, 10-12. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de demandes pour 12 personnes. Donc, pourquoi pas les faire travailler sur de nouveaux projets. Et comment à la fois faire connaître Feed Me Home et en même temps servir des clients, passer par les événements. Et donc, ça a donné beaucoup plus de travail à tout le monde. Et puis, ça a été un vrai tournant important. Et maintenant, on ne fait plus que ça. On ne fait plus que des événements. Donc voilà, et ça a été une très bonne décision jusqu'à aujourd'hui.
Parlons donc prototypage, hein, c'était le sujet d'aujourd'hui. Car, donc, l'idée, c'est de nous faire découvrir ou redécouvrir, hein, si les auditeurs et auditrices redécouvrent ce terme, la notion de prototypage. Donc, l'idée, c'est de faire des essais, hein, le terme prototype, essayer de faire des essais encore et encore, voir comment ça marche, comment ça marche pas, faire des évolutions pour qu'à la fin, arriver sur un produit optimal de manière qualitative et de manière financière et quantitative aussi. Mmh. Est-ce que sur une définition principale, on est un peu là-dedans sur le prototypage ?
Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment d'être sûr que son produit qui va être mis sur le marché va fonctionner. Et donc le prototype, c'est la version avant que ça fonctionne et que ça soit mis sur le marché.
C'est tout ce qu'on va dire V1, V2, tout ça, ça rentre là-dedans ?
Ouais. Après, ça dépend du fonctionnement de chacun, mais moi, c'est plus des V0. C'est version 0, voilà, on les verse au 0.1, 0.2, 0.3. Et puis dès que la V0.8 par exemple est complètement fonctionnelle, on la passe en V1.
Ok, d'accord.
Version de production.
Et après, ça, cette nomenclature, cette gestion des noms de prototypes, ça c'est en fonction des personnes.
Ça voilà, c'est en fonction des personnes, en fonction des entreprises. Mais aussi, il y a autre chose, c'est que le côté. Il y a deux aspects, il y a avant production, mais il y a aussi des prototypes semi-production, on va dire. Je vais vous parler là d'une nouvelle entreprise qu'on est en train de créer qui s'appelle Smile Station. Donc d'ici un mois ou deux, les auditeurs pourront tester la machine. Vous verrez, c'est une cabine photo.
Ok.
Et cette machine sera en version de semi-production. C'est-à-dire que nous, on aura fait les tests de prototype préalables, donc V0, etc. Mais là, on aura une V1-0, un entre-deux, entre 0 et 1. où en gros, elle sera mise en service chez nos partenaires qui sont OK pour tester la machine. Et on va pouvoir comme ça tester avec des vrais clients et un vrai bon nombre de personnes, voir si elle tient sur un mois. Si elle tient sur un mois, on lance en production et on déploie
officiellement
le projet partout, okay. On le commercialise.
Si on comprend bien, là, il y a quand même dans les prototypes des investissements parce qu'on crée, on produit, donc il y a quand même des sous, de temps, de l'énergie, etc. Toi, dans ton calcul à l'année ou au mois, sur ta régularité de calcul financier, comment toi tu fais pour t'y retrouver en fait ? Parce que c'est un prototype, donc c'est peut-être de l'argent perdu si ça ne fonctionne pas. À quel moment tu dis, OK, il ne faut pas que je fasse trop parce qu'il faut que je reste rentable quand même, mais il faut quand même que j'investisse de l'argent entre grands guillemets à perte parce que tu n'as pas de revenu, de retour sur investissement direct. Comment toi tu trouves ton équilibre sur ça ?
Alors là, pour le coup, sur le projet FinMiHome, ça ne demande pas tant de dépenses parce que c'est de l'informatique principalement, donc c'est surtout du temps. Et moi, je ne me rémunère pas pour le moment avec FinMiHome, je conserve tout de côté. Là où avec SmileStation, là ça a été c'est très différent parce que c'est un objet physique, donc il y a des choses à acheter. Bon, il y a pas mal d'aides aujourd'hui, genre Amazon par exemple, c'est génial. Petit tips, vous pouvez prendre un produit, s'il fonctionne pas, par exemple j'ai testé une douzaine de caméras, on la renvoie, ça fonctionne pas avec le projet, c'est pas grave, on la renvoie. Ça permet de gagner des coûts. Et on est remboursé, voilà, ça c'est génial avec Amazon. Mais après, donc on a trouvé, c'est bon, la bonne caméra. mais après aussi, la différence, c'est que mes associés sur SmileStation avancent l'argent. Et c'est sûr que quand on est tout seul, indépendant, et qu'on commence avec zéro fonds, c'est sûr que faire des machines qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros,
c'est dur.
C'est compliqué. Donc c'est pour ça que l'association, ou aussi, je ne sais plus si ça s'appelle la Love Money, c'est l'argent donné par la famille, la famille, les amis, ça peut fonctionner. Bon, après, il faut les convaincre aussi.
Oui, c'est ça.
C'est sûr que l'argent revient un jour.
La famille, ça ne fait pas tout.
Fait pas tout.
Mais OK, donc avoir un support autour de soi qui permet, de toute façon, avoir des associés, déjà, c'est le plus pratique, je suppose.
C'est
la base. Donc, investir de l'argent, être accompagné pour pouvoir se dire, faire des tests, est-ce que tu dis, produire, faire des tests, voir comment ça rend, etc. Après, si on se dit, pourquoi je vais investir de l'argent alors que je peux juste réfléchir, théoriser, et après je lance un premier produit. Pourquoi, selon toi, c'est important en fait d'avoir quand même des prototypes réels pour se rendre compte ou pas du produit plutôt que d'économiser de l'argent en fait et d'attendre de juste tout mettre pour une première V1 qu'on va juger directement efficace.
Parce que le jugement, l'imagination, c'est quelque chose, mais le concret, c'en est une autre. Y a plein de grands chercheurs qui en ont parlé de ça. Y a des choses qu'on imagine fonctionner et puis dans le concret, ça ne fonctionne pas. Et des choses qu'on n'imagine pas du tout fonctionner et qui, dans le concret, fonctionnent et on ne comprend pas exactement pourquoi au préalable. Et là, c'est pareil. Par exemple, sur des machines, sur certaines machines, on peut se dire que tel composant va fonctionner en fonctionnement avec un autre. Et puis, en test, en V0.1, chez soi, tout seul dans sa chambre, ça fonctionne très bien. Et puis quand on le met par exemple dans la machine, et que la machine est posée, elle a son environnement à elle, et ben là on se rend compte que peut-être changer ça, parce que en V0.8 par exemple, on se dit là ça fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir du concret, et qu'on peut pas lancer directement un projet. Surtout dans le domaine de l'électronique, aujourd'hui l'électronique c'est quelque chose de très variable, là où l'informatique en général il y a moins de chances de se tromper, ça c'est sûr.
Maintenant que tu as de l'expérience, parce que ça fait un moment maintenant que tu es dans l'entrepreneuriat, que dans tes différentes activités, tu as la possibilité de faire des prototypes, de faire du prototypage. Est-ce que toi, maintenant, il y a des automatismes que tu as dès que tu dis, OK, je lance un nouveau truc, va forcément y avoir des prototypes, mais maintenant j'ai des types, j'ai des trucs. Est-ce qu'il y a des automatismes que tu as ? Tu dis, OK, soit tu es un document type de gestion, des contacts, peut-être des conseils, des référents conseils à qui tu peux parler, etc., pour partager, ou tu dis, maintenant je sais. J'ai déjà fait, donc je peux aller plus vite dans mon exercice.
Alors moi j'ai des conseils un peu particuliers, au sens où aujourd'hui on connaît ChatGPT, il est de très très bons conseils sur tout, surtout si on prend la version payante. Là je fais la pub, j'ai pas de part chez OpenAI, mais voilà, si on a la version payante aujourd'hui, on a des conseils très très ciblés dans tous les domaines. On a un logiciel, moi par exemple je suis en fin d'études là, à l'ESEO, il y a des logiciels comme ça, on les maîtrise c'est des logiciels très ciblés, on les maîtrise peu en tant que jeune étudiant. La première fois qu'on l'utilise, et là, ChatGPT va connaître par cœur où se trouvent les bons boutons, etc.
D'accord,
c'est impressionnant. Okay. On va lui parler d'un problème d'électronique, par exemple quelque chose de bête, mais il y a certains composants qui ont besoin, les auditeurs qui connaissent comprendront, mais d'une masse commune. Bref,
ouais.
Moi je ne savais pas du tout, j'ai demandé à ChatGPT pourquoi ça ne fonctionne pas. Il m'a répondu, ah, bah, c'est parce qu'il faut une masse commune, et c'est bête,
wow.
Mais c'est des choses, c'est de l'électronique et c'est du physique. Et pareil, moi j'ai la version payante, donc je peux lui passer des images, je lui dis bah, comment ce composant, je le mets en place, quoi, tout simplement dans mon système. Et il va me l'expliquer de A à Z en lisant la photo et en disant, ok, tu dois brancher ça, le fil 1 au fil 2, bref. Donc c'est assez impressionnant. Donc ça, très très bon conseil aujourd'hui et surtout très réactif.
Ouais.
Il dort jamais. Donc,
c'est comme pas... un coup de fil à la dernière minute à un pote, voilà. Mais là tu le déranges pas.
Ah voilà, il y a zéro dérangement, c'est impressionnant. Et puis après, les vrais conseils, c'est surtout la consistance. Alors en français, ça se dit pas trop, mais en gros, c'est le fait de... la constance et la consistance, c'est le fait de tenir vraiment sa ligne directrice, c'est-à-dire
ouais.
On veut créer un projet, un produit, etc. Et ben on va le faire, mais jusqu'au bout. Vraiment, okay. On va pas... l'objectif, c'est passer son temps à ça et le terminer le plus vite possible, parce que on a vite fait de se décourager, surtout quand on se lance. Là, je donne des conseils pour les gens qui se lancent pour la première fois. On a tendance à très vite se décourager, parce que créer un produit, c'est toujours tout un... un enchaînement de problèmes. C'est
oui.
Que des problèmes. De toute façon, on résout des problèmes en permanence, surtout dans le domaine voilà, électronique, informatique. Après, si vous passez par des logiciels qui font les produits pour vous, vous en aurez quand même des problèmes, mais moins. Mais moins, et donc vous aurez toujours ce côté on se fait démotiver, on se sent démotivé par le fait qu'on ne fait qu'enchaîner des problèmes et qu'on a très peu de résultats au début, et c'est vers la fin. Et c'est quand on sort le produit aussi qu'on est très content de nous et qu'on voit des utilisateurs les utiliser, c'est là. Mais pour ça, il faut vraiment tenir. Là, par exemple, Find Me Home, la toute première version qui est sortie, j'avais mis 6 mois à la produire.
Okay.
Et là, le nouveau produit avec Smile Station, j'aurais mis au total 9-10 mois.
Okay.
À le mettre en place. Alors, en sachant que j'ai mes études à côté. Hein,
il y a la vie de base souvent à côté.
C'est donc, c'est pas rien. Mais voilà un petit peu.
Ok, donc tu vas tenir le coup, peut-être faire des pauses, des breaks de temps en temps, mais toujours rester dans son truc et s'investir en fait. Après, c'est la vie d'entrepreneur, surtout au démarrage. Et je pense que tous ceux qui commencent dans ce métier, j'ose espérer, surtout actuellement, que vous écoutez des podcasts comme celui-ci et comme d'autres, et que vous vous renseignez davantage. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, quand je te demandais les conseils, que toi tu te renseignes, déjà que ce soit ChatGPT, des chercheurs, c'est un milieu dans lequel il faut pas mal se renseigner. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur cette thématique-là du prototypage. Je trouve ça hyper intéressant. Et ce qui est bien, c'était hyper important de le repréciser, de pourquoi c'est important d'en avoir. On parle ici d'entrepreneuriat. Après, je pense pouvoir dire que faire des tests, chercher et puis proposer sur le terrain des expériences tests, c'est valable partout pour voir si les choses fonctionnent. Franck Gomez, merci beaucoup.
Merci
d'avoir
toi,
été avec nous. Je rappelle, tu es fondateur et de Feed Me Home, mais du coup de Smile Station. Fondateur de Smile Station, pas ou associé.
Associé.
Cofondateur. De Smile Station et bien sûr membre du Dicar Club, le club des entrepreneurs ici à Angers. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ou c'est que les entreprises qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux.
Ouais, on peut me retrouver. Alors Feed Me Home, on peut le retrouver sur Instagram, LinkedIn, et puis moi sur LinkedIn, on peut me retrouver. Si vous voulez chercher Franck Gomez, tout simplement. Puis il y aura des news de toute façon de toutes les nouvelles entreprises qui arrivent prochainement.
Ok, et eh ben très bien. Bah, merci beaucoup à toi d'être passé. Bonne suite et puis
merci.
Bon courage pour la suite.
Merci.
À bientôt.
Chez la REF avec Suzanne sur Radio G.